Alors, il reste 2h30 avant la date limite des transactions, 2h35 là, pour la précision. Avant cette date limite des transactions, on vous le rappelle, la dernière transaction, Corey Perry retourne à Tampa Bay contre un choix de deuxième tour. Un autre allié qui quitte Los Angeles. Je suis curieux de voir qui va jouer pour les Kings au prochain match. Est-ce que ce sera le club école ou est-ce qu'on va retourner chercher d'autres joueurs? Pour parler de ça et de bien d'autres choses, on a notre ami Marco D'Amico qui est avec nous. Marco, comment ça va?
Ça va très bien, les gars, vous autres?
Ben ouais, ça va bien. On regarde ça, ce qui se passe. Hey, t'es-tu surpris à date, Marco, que l'année n'est pas encore partie? Puis t'es-tu optimiste toujours qu'ils partent avant 3h?
Pas surpris. Je pense qu'on était sur le show mardi, puis je disais, personnellement, si Patrick Laine part, ça serait probablement entre 2h et 3h, alors que certains des gros morceaux vont être échangés ou ce que les autres équipes vont devoir pivoter. Le bénéfice que le Canadien a en ce moment, c'est que c'est l'année 2026. Et les équipes qui sont dans la course aux séries ont beaucoup plus d'espace sous la masse salariale qu'ils l'avaient par le passé. Donc, c'est ça qui joue un peu du côté du Canadien, mais c'est certain que j'ai toujours pensé que ça allait être une transaction de dernière minute dans le cas de Patrick Laine. Ça change pas grand-chose pour l'instant. La seule chose, par contre, qui est surprenante, c'est de voir à quel point les Kings ont pivoté dans les 24 dernières heures. Échanger Fogle, échanger, on vient de le voir avec Corey Perry aussi. Donc, beaucoup d'acquisitions de deuxième choix. Dano est allé chercher un deuxième choix. Fogle, un deuxième choix. Corey Perry, un deuxième choix. On est allé chercher beaucoup d'atouts. Et selon ce que je me suis fait dire, c'est que ça se peut que ça. Il aurait un potentiel que ces choix-là se fassent flipper avant la fin de la journée. Pas pour Patrick Laine, bien sûr, mais dans d'autres dossiers à suivre. Donc, c'est pour ça que je dis pas nécessairement que les Kings sont vendeurs, mais j'ai trouvé ça très surprenant quand j'ai vu la transaction Corey Perry, spécialement après le rapport de hier, de la part de Frank Saravalli qui disait qu'il a démontré de l'intérêt de rester avec les Kings.
Restons chez les Kings pour compléter. Là, tu l'as dit, Warren Fogle part, Corey Perry part. Et là, ça nous amène aussi aux nombreuses blessures. Bon, on a vu Kevin Fiala, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a une possibilité de Patrick Laine, là, Kuzmenko qui se blesse, Yoel Armia se blesse également. On a vu plusieurs joueurs se blesser et là, ça devient assez mince. C'est la dernière saison de Kopitar. Panarin est débarqué, ça va pas bien. On doit faire les séries éliminatoires. Donc, tu t'attends à ce qu'ils puissent investir aujourd'hui pour faire un splash. Et on entend beaucoup un joueur de centre également chez les Kings de Los Angeles. Parce qu'après Kopitar, Byfield n'a même pas joué la saison complète au centre. Donc, est-ce que tu t'attends à ce qu'on aille chercher peut-être de l'aide, oui, à l'attaque, à l'aile, mais également au centre?
S'il y a un club qui s'en fiche probablement du contrat de Nazem Kadri en termes de 7 millions jusqu'à 38 ans, 39 ans, c'est bel et bien Los Angeles.
Ouais.
Écoute, on le sait, on l'a rapporté ce matin, il y a une transaction qui a échoué entre le Colorado et les Flames dû au fait qu'ils ne trouvaient pas avoir reçu assez de valeur pour retenir du salaire sur ce contrat-là. Donc, le Colorado se sont pivotés vers Nick Roy, qui est quand même une excellente transaction pour les Leafs. Je pense que si tu es un club comme Los Angeles, tu es moins, tu as moins peur parce que tu as tellement de lousse maintenant pour la saison prochaine. Tu viens de clairer 3,5 millions dans la transaction de Fogle d'hier pour l'année prochaine. Donc déjà là, la moitié de l'impact d'un gars comme Nazem Kadri. Donc encore un club que je surveille dans ce côté-là parce que juste à cause du fait qu'ils sont capables d'aller monnayer leurs alliés, ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement terminé. On le sait, Anze Kopitar a fait le commentaire hier, il aimerait que les Kings aillent chercher des joueurs. Je ne dis pas que c'est marché conclu puis c'est là où ça va, mais je vois juste mal les équipes qui sont dans une position de compétition pour les séries se donner ou payer le prix pour un Nazem Kadri, alors que tu as un club comme Los Angeles qui, eux autres, ont absolument besoin d'un deuxième centre pour la saison prochaine, sinon ça risque d'être une équipe de bas-fond de classement.
Qu'est-ce que tu penses de tout le bruit autour du fait que le Canadien serait aussi à la recherche d'un gardien de but?
Je sais pas si je dirais que le Canadien serait à la recherche d'un gardien de but, mais c'est certain que le Canadien n'est pas satisfait de leur gardien de but en ce moment. Et c'est certain qu'ils ne veulent pas brûler les étapes avec Jacob Fowler. Et je pense que tout le monde peut comprendre pourquoi. Là, tu ne veux pas revivre les premières années de Carey Price à Montréal, comme on se souvient, en 2009 et 2010. Tu veux que ça soit quelque chose où ce qui apporte vraiment étape par étape. Et en ce moment, on le voit avec Fowler. Il a bien fait à Laval. Là, il revient de sa... de son virus et ils s'attendent qu'il y ait un long parcours en série. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça soit l'île sauveur. S'il y a une transaction à faire, ça serait intéressant du côté de Binnington. Je sais qu'on parle beaucoup de lui. Pas par chance, mesdames et messieurs, tout le monde me dit ben, s'il y a un échange de gardien de but et que Samuel Montembeau est inclus, ben, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que le gardien va se rendre? À noter que les Blues de Saint-Louis jouent à San Jose ce soir, qui est un petit vol d'une heure de Los Angeles. Ou Anaheim, bien sûr, ou une route de 6 heures. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire si bien, mais il reste encore du chemin. Je ne crois pas que le Canadien est rendu au point. Je le mettrais. Je sais que c'est facile, puis le monde va rouler leurs yeux, et je m'excuse, mais je mettrais bien le fait qu'il y a une transaction pour un gardien de but à 50-50.
Ah, 50-50, c'est quand même positif, je dirais. Ouais. Je serais allé en bas de 50%, mais...
Tout dépend, parce que Gonzo, George, il n'y a pas de marché pour les gardiens de but en ce moment.
Il n'y a pas de marché, mais en même temps, il y en a une tonne qui sont potentiellement disponibles. Tu sais.
Et voilà. Et donc, je crois, si possible, et selon ce que j'entends, si le Canadien, si le Canadien s'en va chercher un gardien de but, ils ne vont pas avoir une rotation de 3 gardiens. Donc, il y en a un qui va partir. Et ce que j'entends, c'est que le nom de Samuel Montembeau est dans le marché. En ce moment.
Ben, tu sais, on en parlait. Donc, logiquement, je veux dire, si tu vas chercher un gars comme Binnington, ben, t'as pas le choix d'envoyer un gardien de but. Donc, ce serait sûrement Samuel Montembeau. On verra pour les gardiens. Je vais faire un suivi sur les défenseurs maintenant. On le sait, on cherche un défenseur. C'est une denrée qui est très prisée et très recherchée à travers la Ligue nationale de hockey. On a entendu encore le Rasmus Ristolainen. Ce serait un prix exorbitant. Pour le Canadien de Montréal, il y a un nom que t'as sorti ce matin, puis qui est Nick Perbix. Puis tu nous en as parlé mardi également. C'est un profil qui est assez intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as des infos comme quoi? Parce que sinon, on a entendu Carlo, on a entendu White Cloud, on a entendu plein de noms chez le Canadien, mais Perbix pourrait être une cible.
Absolument. Écoute, moi, je pense que en ce moment, là, les Flames, ils disent qu'il n'est pas disponible sauf si M. White Cloud. Ouais. Parce qu'ils veulent, ils veulent la valeur d'un choix de premier tour. Ils veulent un gros atout. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de partisans du Canadien de Montréal qui aimeraient voir le CH sacrifier un choix de premier tour pour un défenseur droitier de troisième paire.
Non.
C'est peut-être pas le moment. Si le Canadien était dans le mode série où ce que tu savais que ce choix-là allait absolument être un choix de la fin vingtaine, début trentaine, et que le Canadien était dans sa fenêtre de compétition à la Coupe Stanley, peut-être on pourrait avoir cette conversation-là, mais je pense pas que les Canadiens sont là. Donc, tu surveilles d'autres options qui sont peut-être moins chères. Et c'est pour ça que j'ai soulevé le nom de Nick Perbix. Brandon Carlo coûterait beaucoup moins cher qu'il l'a coûté l'année passée, un choix de premier tour, un espoir de quand même premier plan, selon moi, et un autre choix. Donc, ça, c'est une option. Mais je crois que Nick Perbix a plus de chances d'être une meilleure valeur qualité-prix. Je crois pas que ça coûterait un choix de premier tour. Et c'est un joueur qui excelle en désavantage numérique, là où ce que le Canadien a besoin de le plus d'aide, selon moi.
Là, Big, de notre côté qu'on parle, puis je comprends que c'est pas évident de faire ça, mais on regarde comment les équipes se grossissent, comment ils sont plus physiques à l'arrivée de cette fin de saison, que c'est plus physique, puis les séries. Est-ce que tu penses que... Tu sais, il y a tellement de choses que le Canadien a besoin, mais penses-tu que le Canadien pourrait en profiter aussi pour peut-être ajouter un élément plus physique à son équipe?
Je pense que physique et compétitif sont deux choses qui sont des fois similaires, mais dans ce cas-ci, un peu différent. Je crois que le Canadien le savent qu'ils doivent se grossir. Regardez la façon qu'ils repêchent récemment. Aiden Papanikis, Tyler Thorpe, Florian Jacky, c'est pas par chance qu'ils sont en train de faire de regarder de ce côté-là. Ils veulent grossir, puis Jeff Gorton, c'est toujours été son copyright, là, il adore avoir un troisième et quatrième trio gros, vite et compétitif. Donc, c'est certain que éventuellement ça s'enligne vers ça, et je sais que le Canadien aimerait éventuellement s'y rendre. Mais comme j'ai dit à beaucoup de partisans sur les médias sociaux et dans mes discussions, le Canadien va pas tout patcher aujourd'hui. Puis tu peux pas t'attendre à ce que ça soit ça, mais je suis sûr que c'est quelque chose d'un ordre. Ils le savent, mais c'est pas nécessairement se grossir. Tu peux avoir un joueur qui est 6 pieds 4, mais qui ne frappe pas beaucoup. Exemple, Nick Perbix n'est pas le joueur le plus physique. Il peut en donner des mises en échec, mais il n'en fait pas très souvent. Mais quand il en fait, c'est des mises en échec percutantes. Donc, oui, il est gros, oui, il est mobile, oui, c'est un défenseur droitier, mais peut-être il n'a pas le chien que, mettons, un Zach Whitecloud aurait. Donc, c'est des différents profils qu'il faut regarder. Et je crois que le Canadien ne sont pas à un, deux joueurs de vraiment se pousser vers une nouvelle identité. Ça va prendre du temps. Mais ils ont identifié le fait qu'ils ont besoin de faire un changement dans ce contexte-là parce que le Canadien, spécialement devant son propre filet, trop facile à jouer contre.
Complètement, tu sais. Puis c'est pour ça qu'un gars comme Whitecloud pourrait être intéressant. Georges Binet pour Jack Eye aussi.
Ouais, Jack Eye, PDB, il va en être,
mais
on ne peut pas jouer.
Mais Jack Eye, Marco, tu sais, je disais, mettons, là, on entendait l'info de Herb Zurkowski au début de la semaine également, comme quoi les Flames aimaient beaucoup Jack Eye. Est-ce qu'on sera tenté?
Ouais.
Je suis curieux parce que, tu sais, en laissant partir Uyghur et Anderson, qui sont deux droitiers, tu as quand même Whitecloud qui est un droitier que tu dois garder. Mais si on avait à se parler, peut-être que le Canadien pourrait envoyer Jack Eye du côté des Flames pour Whitecloud, là, entre autres. Là.
Oh, ouais, écoute, c'est pas fou comme idée. C'est certain que ça prendrait d'autres morceaux. C'est pas fou comme idée. C'est quelque chose que j'ai soulevé dans mon propre podcast au Star and Demico hier. Mais ce que je dirais, par contre, c'est que le besoin pour un Jack Eye, parce que cet intérêt ne date pas d'hier, c'est un intérêt qui date de longtemps du côté de Craig Conroy et Arbor Jack Eye. Ce que je pourrais vous dire, par contre, c'est que avec l'éclosion, en guillemets, du côté de Yan Kuznetsov, et l'acquisition d'Oli Mata, qui est un gaucher lui-même, dans la transaction Mackenzie Uyghur, il y a moins un besoin pour un défenseur gaucher. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Oui, parce que Mata est capable de jouer à la droite comme la gauche. Mais je crois que ce besoin n'est plus autant là. Mais c'est certain que si le Canadien ne veut pas payer un choix de premier tour, ils veulent absolument un Whitecloud. Oui, Jack Eye pourrait être une option, mais je ne sais pas si l'appétit est encore là pour les Flames.
Marco, il y a beaucoup de gens, puis ça c'était ça, ça l'est arrivé, qui sont déçus parce que le Canadien, il ne s'est rien passé encore. Advenant là, que ce soit juste Lainé, le move qu'ils font, est-ce que pour toi, le Canadien va quand même rentrer en série s'il ne fait rien?
C'est difficile à dire parce que personnellement, je crois que si le Canadien sont capables de rentrer en série, c'est à cause d'une amélioration de leur jeu collectif défensivement. Et c'est certain aussi d'avoir une certaine constance dans les buts.
Ouais.
Je pense que, oui, tu peux transiger pour améliorer ça, mais on sait que les Canadiens sont capables de le faire. C'est à l'équipe de trouver... c'est certain qu'on veut regarder, va chercher tel joueur, va chercher tel joueur, va chercher tel joueur. Mais au bout du compte, puis c'est ça que je parle avec les partisans, si ton noyau n'est pas capable de défendre, ton top 4 n'est pas capable de défendre, c'est pas ta troisième paire tout seul qui fait les dommages. C'est des fois, c'est sa première paire, c'est la deuxième paire, c'est la couverture défensive, c'est les stratégies. Il y a beaucoup courant là-dedans. Parce Donc, moi, je crois que un resserrement serait besoin plus que nécessairement à essayer de faire une grosse transaction pour sauver ta série.
Parce que Marco, la question que je te pose, c'est la question que l'état-major se pose. Si pour eux, ils sont convaincus qu'avec le noyau qu'ils ont là, ils peuvent faire les séries, ils vont rien faire là. Parce qu'eux, leur fenêtre, c'est pas cette année. Pourquoi ils vont se vider pour aller chercher un gars puis gagner la coupe puis donner des espoirs? Ils vont pas faire ça. Eux, ils regardent ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question puis ils se disent, bon, OK, les gars, on est-tu dans l'obligation d'aller chercher quelqu'un pour faire les séries ou avec ce qu'on a là, nos deux gardiens, on peut le faire? Puis...
Il y a pas d'une obligation. Le Canadien, ils se sont rendus dans la deuxième phase de l'Atlantique, ils se sont rendus là eux-mêmes. Et je dirais la grande majorité de cette saison-là, sans Caden Gooley, sans Kirby Doc, sans Alex Newhook. Donc, ils sont très capables de le faire. C'est juste, malheureusement, on en parle maintenant parce que la division Atlantique, elle est hyper compétitive et maintenant, t'as les Blue Jackets de Columbus qui s'en viennent. C'est certain qu'il y a un certain stress du côté des partisans. Je ne crois pas que le Canadien de Montréal vit ce stress-là. L'état-major vit ce stress-là. Et c'est pas à cause de deux mauvais matchs sur trois après le retour des Olympiques qui va faire en sorte que le Canadien va paniquer.
Non, mais il y a des équipes qui poussent, tu sais. Jackets, même les Sénateurs, ça pousse aussi. Mais
il y a plus de pression sur ces équipes-là
que sur le Canadien, je suis d'accord.
Oui, tu les regardes. Mais le Canadien a une avance sur eux.
Complètement.
Et le moment que ces équipes-là commencent à perdre un match, ouf, la fenêtre ouvre pour le Canadien. Un autre match, ouf, la fenêtre ouvre pour le Canadien. Mais on est juste habitué à ce que le Canadien a vécu l'année passée où ils se sont qualifiés à la 82e joute et c'est ça peut-être qui va faire le changement. Si le Canadien est capable d'au moins avoir du 900 côté efficacité des gardiens de but et que la défensive se resserre et joue plus disciplinée, je suis sûr que les Canadiens vont rentrer en série.
La différence là-dedans aussi, c'est que le profil des joueurs recherchés chez les Canadiens de Montréal, c'est que ce n'est pas des joueurs de location. Philippe Danault, tu sais, il a une autre année de contrat. Nick Perbix a une autre année de contrat. White Cloud a d'autres années de contrat. Donc, on va chercher des joueurs où, oui, tu vas peut-être sacrifier quelque chose, mais tu vas les avoir encore. Tu sais, même chose quand on entend parler de Rasmus Ristolainen. Tu es peut-être prêt à céder des choses pour avoir de l'aide quand même à moyen terme pour attendre qu'il y ait des joueurs qui se développent puis qu'en même temps, ces joueurs-là aient des rôles chez le Canadien aussi. T'sais, on n'a pas entendu le Canadien de Montréal vers beaucoup de joueurs de location, mis à part peut-être Connor Murphy, qui était un des noms. Mais sinon, t'sais, ça va être de pouvoir aussi aller chercher de l'aide pour peut-être l'année prochaine aussi.
Ah, absolument. Puis je pense que le Canadien n'est pas dans... Tu sais, Connor Murphy, il avait un intérêt, mais pas un choix de deuxième tour. Il serait plus apte à donner un choix de deuxième tour pour un joueur qui est signé pour une autre saison, parce que ça leur donne de la flexibilité avec leur alignement. S'ils veulent décider d'échanger un autre défenseur cet été pour s'améliorer ailleurs, ça devient une possibilité. Donc, c'est en ayant ce contrôle-là que le Canadien aimerait passer de l'avant. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on recherche. C'est d'ailleurs pourquoi je ne vois pas vraiment le Canadien se lancer dans les gros noms qui restent en termes de joueurs de location. S'il y a peut-être un joueur à 2h59 qui n'est pas encore transigé et tu veux sortir un sixième choix pour un Trevor Van Riemsdyk, ça, c'est peut-être possible. Mais je m'attends pas, attendez-vous pas, selon moi, à les grosses transactions, sauf si ce joueur-là est signé au moins pour l'année prochaine. Donc, pour moi, c'est le mot d'ordre là-bas. Je m'attends pas à un quick fix du côté du Canadien. Je sais qu'il y a de l'engouement, les partisans veulent voir quelque chose se passer, mais selon moi, tu veux pas paniquer parce que moi, la transaction que j'ai vue de Buffalo hier, Isaac Rossin, un deuxième choix et plus, pour Logan Stanley et Luke Shen, ça, c'est paniqué, mes amis. Ça, c'est paniqué, selon moi. Et je ne vois pas le besoin pour le Canadien. Ils viennent à peine de rentrer dans la fenêtre.
Puis, pour finir, Big, quelle équipe t'attends d'ici 3 heures à ce qu'ils fassent le plus gros coup?
Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que le Wild du Minnesota se sont price out quasiment dans le derby de Vinny Trocheck. Ça va prendre quelque chose.
C'est terminé, là, ça a l'air. Là. Selon plusieurs, là, entre autres John Lazaris et d'autres, là, ils ne seraient plus dans la course pantoute pour Vinny Trocheck.
Ouais, c'est ça. On disait que c'était terminé du côté du Wild, mais ils viennent juste d'échanger Vinny Nistroza à la Floride.
Ouais, donc, c'est ça. On essaie d'être créatif.
On croyait que Corey Perry était pour rester à Los Angeles. Il a été échangé. Ouais. T'sais, c'est pour ça que je dis, il n'y a rien de confirmé. Je ne veux pas m'avancer sur des joueurs de façon concrète parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer dans les 2 prochaines heures. La seule chose que je dirais, par contre, c'est que ce marché-ci est bizarre parce qu'il y a tellement peu de joueurs de location. Ouais. Et on s'enligne, quelque chose. Mais restez à l'affût. Je suis pas mal sûr qu'on devrait avoir une transaction du Canadien de Montréal dans pas long.
Ah, il faut en avoir au moins une. Ça serait le fun.
Excuse-moi, le téléphone a sonné durant la chronique.
Ouais, non, c'est correct. On voit également, tu vois, Seattle, finalement, on disait qu'on voulait pas signer personne et on aurait signé Jordan Eberle. 2 ans, 5,5 millions pour Jordan Eberle.
Seattle a informé leurs agents libres qu'ils n'allaient pas les échanger.
Exact. Mais alors, on les échangeait pas. Mais là, au moins, on les a signés. Pour Jordan Eberle qui resterait là-bas. Marco, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On te souhaite une bonne journée. Écoute, n'hésite pas. Si tu as quelque chose, tu nous textes et tu nous rappelles et on te rentre en onde d'ici à 14h.
Ben, je vais être disponible au cas où parce que j'entends que le Canadien est actif dans un dossier. Donc, je vous texte s'il y a quoi que ce soit.
Parfait. Et on te reprend à la volée, Marco.
Salut, Big.